Bonjour et bienvenue sur Radio Japon 21. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale Japon. Juliette et Morgane, vous commencez par nous parler de Takashi Murakayami, un artiste japonais à la reconnaissance mondiale. Bonjour.
Bonjour. Takashi Murakami est un artiste plasticien japonais, connu pour son art coloré et enfantin. Ses œuvres sont considérées parmi les plus chères du monde. Après avoir collaboré avec Louis Vuitton, Off-White, Google, Pharrell Williams ou encore Vogue, il revient ce mois-ci en collaborant avec la chanteuse Billie Eilish pour son clip « You Should See Me in a Crown ». C'est lui qui s'est chargé de l'animation, en respectant les caractéristiques du monde ténébreux et unique de Billie. La vidéo a été visionnée plus de 26 millions de fois sur YouTube. Billie Eilish, elle-même grande fan du japonais, a vraiment été reconnaissante d'avoir pu travailler avec lui. En plus du clip, Murakami réalise une collection de vêtements, des figurines ainsi qu'une statue à l'effigie de la chanteuse pour sa tournée mondiale.
En ce moment, depuis le 7 février jusqu'au 22 septembre 2019, une exposition dédiée à Murakami est présentée au Musée en Herbe à Paris. Cette exposition, Monstres, Manga et Murakami, permet de découvrir le monde des yokai, ces monstres et fantômes de la culture japonaise. Cette présentation, basée sur une tradition millénaire, est présentée sous la forme d'un manga, animé et jeu vidéo. Le personnage Inoshi, mi-humain et mi-robot, inspiré de Pinocchio et E.T., est réalisé par Murakami et est aussi exposé au Musée en Herbe. En attendant, vous pouvez le retrouver à la Fondation Louis Vuitton à Paris, où Murakami expose ses nombreuses œuvres.
Merci. Le Japon est donc un pays artistique, aussi dans ses rues. Lou et Mélissande, qu'en pensez-vous ?
Le street art, traduit par des stickers et graffitis, est très faible au Japon. Il est perçu comme salissant ou comme du vandalisme et peut être puni par la loi. Il y a différentes sanctions comme des amendes ou de la garde à vue, il est donc perçu comme illégal. Lors des Jeux Olympiques de 2020, le gouvernement décide de nettoyer la ville de Tokyo afin de, je cite, « enjoliver la ville et prouver sa propreté légendaire au monde entier ». Citons quelques noms d'artistes. NK, addict aux stickers, voyage dans toute l'Asie, surnommé également 24K. Fads, une japonaise addict aux autocollants. Puis le Banksy japonais, surnommé 281 Nuke, anonyme, engagé dans le combat antinucléaire du Japon.
Le street art se présente principalement sous forme d'œuvres d'art sur des plaques d'égout. On y retrouve des références historiques, géographiques ou encore des symboles comme le phénix et la double résurrection. Il existe plus de 15 millions de plaques décorées, très prisées par leurs fans. Leur prix est deux fois plus élevé que des plaques banales, mais leur accès est limité car elles pèsent plus de 40 kg. Finalement, le côté illégal de cette pratique attire de plus en plus d'artistes qui souhaitent désormais pouvoir s'exprimer librement sans être punis pour ça.
Merci. Et oui, là où le Japon est partout. Et la mode dans tout ça. Différentes modes existent, dont la mode du kawaii que vous nous présentez, Modéila. Bonjour.
Le kawaii, c'est quoi ? C'est un phénomène, une mode, une tendance. Appelez cela comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de fort, très fort et omniprésent au Japon. Concrètement, et pour faire simple, kawaii c'est ce qui est mignon. Mais au Japon, le mignon c'est bien plus qu'un mot, c'est une culture. Concrètement, au Japon, tout est fait pour être mignon, pour séduire tout le monde. Surtout ces dames qui raffolent des objets mignons, divers et variés. Et ceci peu importe leur âge. Vous les verrez donc avec des objets mignons accrochés de partout sur elles. Vêtements, bijoux, accessoires, sacs. Ou bien avec des vêtements étant eux-mêmes mignons, à la limite d'être des vêtements pour enfants, mais portés par les adultes ou des ados. Mais, ma chère Lila, ce phénomène kawaii est-il bien vu au Japon ?
Mais le kawaii ne s'arrête pas qu'aux objets. Cela peut aussi concerner des individus, comme par exemple un petit garçon qui fera un signe V avec la main lorsqu'il prendra une photo, ou bien encore un adulte qui fera une action le rendant encore plus enfantin. Et pour répondre à ta question, le kawaii est jugé sexiste, car beaucoup de femmes portent le style kawaii. Du moins, c'est ce qu'estimait Aki Abe dans une interview le mois dernier, en disant, je cite, « Les hommes japonais préfèrent les femmes mignonnes, kawaii, aux femmes capables et travaillant dur. Donc les femmes essaient du genre que les hommes aiment, mais les femmes, même les femmes talentueuses, se montrent sous un jour kawaii. »
Merci. Le kawaii est partout, même dans les mascottes des prochains JO 2020. Candice, vous nous le présentez.
Bonjour à tous, je vais vous présenter les deux mascottes des Jeux Olympiques au Japon, pour les Jeux Olympiques de 2020. L'une symbolise les JO et l'autre symbolise les Paralympiques. Ce sont des écoliers qui ont choisi leur apparence, similaire à des mangas, qui seraient dotés de pouvoirs spéciaux. La mascotte des JO est représentée habillée avec des motifs en damier bleu, s'appelle Miratowa, et l'autre symbolisant les Paralympiques s'appelle Somaichi, qui est faite avec des damiers roses. sont toutes les deux formées de la même façon, avec une silhouette élancée, des oreilles pointues, de grands yeux. Leurs prénoms ont chacun une signification. Celle des Jio, Miratowa, est une combinaison de termes japonais désignant l'avenir et l'éternité. Celle des Paralympiques, Somaichi, est un nom qui mêle une variété de cerisiers japonais et l'expression anglaise Somiitai, si puissant. Au-delà de leurs noms originaux, les mascottes possèdent aussi des caractères particuliers. Miratowai a un sens très prononcé de la justice et est très athlétique, alors que Somaichi est d'habitude très calme, mais peut devenir très puissant en cas de besoin. Elle remplace ainsi les mascottes de Rio des JO de 2016, Vincius le chat à la queue de singe et Tom l'arbre bleu.
Merci. Intéressons-nous maintenant au Yakuza. Bien moins sympathique que nos célèbres mascottes, et elle est la deuxième plus grande organisation criminelle au monde. Caïs, Mila et Noah, pouvez-vous nous en dire plus?
Les Yakuza sont des membres de criminels au Japon. Où sont-ils regroupés?
Ils sont regroupés dans 4 syndicats, dans l'archipel. Ils possèdent des ramifications dans la zone pacifique, en Allemagne et même aux USA. En 2016, ils étaient 39 100 membres. Le groupe le plus dangereux se nomme les Saliatus Sechemchem. Comment se faire accepter et comment ce clan est organisé?
Ils sont considérés comme l'organisation criminelle la plus dangereuse et grande sans être secrète. Pour pouvoir être accepté dans un de ces clans, il faut se couper l'auriculaire pour prouver sa valeur et ses motivations. Chaque famille de Yakuza possède un chef nommé Oyabun. Ce titre se transmet de père en fils. Chaque Yakuza doit promettre fidélité à l'Oyabun.
Merci. Et pour terminer, portons notre regard sur deux villes japonaises, Kawakatsuki et Fukushima. Donnons la parole en premier à Nicolas.
Kawakatsu, ville de 1600 habitants, est la plus pauvre et la moins peuplée du Japon, des quatre îles du Japon, mais aussi la capitale mondiale du zéro déchet. Ce mouvement consiste à réduire, réutiliser, recycler et composter un maximum de déchets, ce qui fera diminuer l'incinération et permet la diminution de fumées toxiques et polluantes. De nos jours, Kawakatsu recycle 80% de ses déchets, un chiffre qui augmente chaque année. Pourtant, la quantité de déchets produits reste la même. Ce phénomène est dû au surplus d'emballages plastiques alimentaires. La présidente du programme Zéro Déchet a affirmé que maintenant que les gens ont l'habitude de trier, ce sont aux industriels et aux communautés d'adopter l'initiative Zéro Déchet pour que ce programme prenne de l'envergure. Kawakatsu, siège de ce programme, compte bien atteindre 100% de déchets recyclés d'ici 2022. Le village possède ses commerces de vêtements et accessoires faits main et est en pleine croissance. 80% des habitants des Kawakatsu ont au-dessus de 60 ans et 40% au-dessus de 80 ans. Une station de récupération de déchets principale se trouve au centre de la ville. Les habitants y vont à pied ou en vélo car très peu ont une voiture. De nos jours, le zéro déchet s'étend de plus en plus et devient très présent, surtout aux États-Unis.
Merci. Raphaël, à vous.
Il y a 8 ans, survenait au Japon une véritable catastrophe. En 1986, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl montrait au grand jour les faiblesses scientifiques et techniques du nucléaire en Ukraine. Comment le Japon, après ce terrible événement, réagit-il? La part du nucléaire baisse faiblement, passant de 30% à 22%. Cette baisse s'explique par l'arrêt de 54 réacteurs nucléaires. En revanche, 9 réacteurs ont été réactivés. Des efforts ont été consentis pour accroître la production d'énergie renouvelable. Le photovoltaïque arrive en troisième position sur les 10 pays les plus investis dans ce domaine. Le charbon et d'autres modes de production sont aussi utilisés.
Merci à tous nos intervenants. Cette chronique referme notre édition spéciale Japon. Au revoir et merci de nous avoir suivis.